carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le samedi 8 novembre 2008, Muriel Théodori, l'auteur du livret de l'opéra Welcome to the Voice, un opéra moderne, composé par Steve Neave, acceptait une interview entre deux répétitions à quelques jours de la première au Théâtre du Châtelet.
Bonjour Muriel Théodori.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est qu'un opéra pour vous ?
C'est un travail avant tout. Ça a à voir vraiment avec la question du travail. Et c'est un travail qui combine plusieurs temps de l'art et plusieurs expressions. C'est-à-dire que opéra, c'est le pluriel de opus, qui veut dire d'ailleurs le travail, l'œuvre éventuellement. C'est pour ça qu'on n'a pas eu trop peur finalement de garder ce nom, alors qu'éventuellement on pouvait se dire que c'était peut-être prétentieux ou trop ambitieux comme ça de garder l'idée d'opéra. Puis ensuite on s'est rendu compte que comme c'était vraiment un travail ce qu'on est en train de faire, un travail d'achèvement qui maintenant combine des voix différentes, qui combine des orchestres différents, c'est-à-dire un orchestre plus jazz avec Vincent Segal, avec Ibrahim Malouf à la trompette, Ned Rosenberg, Steve qui est au piano lui-même et qui est dans l'improvisation, et puis un orchestre très classique fait essentiellement de cordes, de 30 quelques cordes et de 3 percussionnistes, c'est encore une fois une manière de combiner des domaines de l'art. Il y a aussi à l'intérieur de ça des images, c'est-à-dire des éléments qui ont à voir avec les images mentales de nos héros et avec leurs prémonitions.
Là, vous parlez de Welcome to the Voice, mais un opéra en général, c'est aussi ça.
C'est, d'abord, de oui, ça c'est vraiment la définition effectivement de l'opéra, c'est-à-dire que la combinaison comme ça enchante si possible, d'éléments du domaine artistique. Il y avait avant, traditionnellement, la partie purement orchestrale de l'ouverture, évidemment l'image sur scène, les ballets, il y avait effectivement une manière d'associer tous les éléments artistiques de l'époque. Aujourd'hui, donc, on suit ça, nous, pour notre travail, puisqu'on y met aussi, il y a un moment de ballet magnifique entre Sting et Sylvia Schwartz. Il y a des moments de danse, mais qui ne sont pas vécus comme des moments de danse professionnelle, mais qui sont vraiment un enchantement, comme ça, une espèce d'extase. Il y a des images, il y a tout ça, tout ce qui forme habituellement, traditionnellement, l'idée d'opéra.
Alors, Welcome to the Voice, c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, qui est déjà...
Une vie.
Vous pourriez nous résumer un petit peu ce que vous aviez voulu faire, ce que vous avez voulu faire, pardon ?
Il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on a essayé de faire. On a déjà essayé, Steve et moi, Steve Neave, qui est le compositeur, et qui est mon compagnon aussi. Donc c'est très particulier, parce que qu'est-ce qu'on a essayé de faire au début ? C'est d'inventer quelque chose qui nous lierait. Et ça a marché, puisqu'on est ensemble maintenant depuis quand même pas mal de temps, c'est une quinzaine d'années. Bien. Moi, j'aimais raconter des histoires, et lui aimait la musique, et on a essayé de raconter une histoire en musique. Alors c'est aussi modeste que ça, mais au bout du compte, c'est finalement ce qui forme la nature même de l'opéra aussi, hein, de raconter une continuité dramatique en musique. Voilà.
Alors là, c'est l'histoire, j'allais dire un héros tout de suite.
Oui, mais c'est vrai, il est vraiment héros. Un dieu, c'est toujours un héros. Un ouvrier, à nos yeux, c'est un héros aussi. Alors ça fait effectivement doublement de l'héroïsme. C'est l'histoire d'un ouvrier fondeur, métallurgiste, qui s'appelle Dionysos parce qu'il est fils d'immigrants grecs, mais sans doute aussi parce qu'il est animé par l'esprit du dieu de l'extase, de la démesure, de la création. Voilà, c'est Dionysos.
Et Dionysos est amoureux des voix et de celle qui va incarner cette voix, qui est une chanteuse d'opéra.
Lily. Helle. On l'a appelée Helle parce qu'il y avait plein de choses dans ce nom qu'on a inventé. Il y a Helle qui veut dire la clarté, par rapport à Schwartz, qui sera donc notre Lily sur scène, et qui veut dire sombre, Schwartz en allemand. On l'a aussi appelé comme ça parce que ça donne Hell, qui veut dire l'enfer. Et puis ça donne Elle aussi, qui veut dire la femme, Elle.
Et Dionysos, pourquoi ce nom, ce choix ?
D'abord parce qu'il fallait effectivement...
C'est un nom qui claque, on va
ouais,
dire.
Oui, l'habiter d'une force comme ça, très, très, très affirmée. Dionysos, c'est vraiment un dieu. Moi, j'ai une passion. J'ai appelé mon fils Ulysse, donc ça dit aussi beaucoup. Mais j'ai une passion absolument par ma formation philosophique pour la Grèce et pour la Grèce antique, pour la philosophie grecque, pour Socrate, qui est quand même vraiment mon amoureux de rêve. Et donc, toutes ces histoires autour de la mythologie m'ont toujours incroyablement impressionnée et ont remplacé le peu d'accès que j'avais eu par ma famille à l'idée de religion. Et donc, j'ai été fascinée, consolée par l'idée de la mythologie. Et donc, ça s'est mis à la place de la possibilité d'une spiritualité comme ça, quand il y avait une espèce de rapport très matérialiste dans ma famille, puisque mes parents étaient athées d'abord, dans ce matérialisme politique aussi, d'une certaine manière.
Alors dans l'opéra, là dans Welcome to the Voice, le héros est partagé entre deux mondes, le sien et puis ce monde de la musique. Il a une véritable passion et comment justement va-t-il pouvoir s'extraire de son milieu, de ses liens ? Et il est tellement passionné et fort qu'il va y parvenir. Mais racontez-nous cette histoire qui finit bien.
Oui, c'est important que ça soit une histoire qui finisse bien. C'est sa folie d'une certaine façon qui l'aide à transgresser ses mondes, à s'autoriser lui-même, à passer d'un monde à l'autre. C'est-à-dire à se dire qu'après tout, cet interdit qui semble mettre les gens dans leur destinée pour toujours, les crucifier dans une certaine place, surtout quand ils sont du côté de classes très très modestes comme ça. Lui, il veut sublimer ça, il veut transgresser ça. C'est le chemin qu'a fait Sting aussi d'une certaine manière. Il est fils de laitier. Il livrait le lait jusqu'à très tard avec son père. Il se levait à 5 heures du matin. Quand on travaillait un jour avec Sting et qu'on lui avait demandé de se réveiller à 5 heures pour visiter une fonderie à Pittsburgh, il nous avait dit, ça me rappelle beaucoup de choses, je dois dire, ce 5 heures du matin dans la brume pour partir visiter, comme ça. Enfin, bref, lui, c'était du travail. C'est ce qu'il a fait aussi, lui, d'une certaine façon, en devenant sans doute une des figures les plus légendaires du monde du rock et de la musique, d'ailleurs. Alors qu'il était effectivement de petite extraction, comme on dit. Donc lui, il se permet d'une certaine façon, notre Dionysos, de faire ce que des gens ont envie de faire effectivement, mais ont la sensation que qu'ils ne pourraient jamais accéder à quoi que ce soit qui leur permettrait de voler, quoi. C'est une utopie. Hein.
Oui, vous avez dit que c'était un opéra utopique. Ouais. Vous trouvez qu'on manque d'utopie en ce moment ?
Oui, vraiment, profondément. Je suis sans doute trop vieille maintenant, mais je vois le pragmatisme, par exemple, de mon fils qui a 20 ans, sa manière d'être occupé par des choses efficaces, d'appeler des choses des produits, d'être dans un langage comme ça, qui a à voir parfois avec du langage de marketing, alors que c'est un poète, alors qu'il est un créateur, et il fait de la musique, il a un groupe qui s'appelle Maybe, dont il est lui-même le créateur. Mais je vois malgré tout qu'il y a un pragmatisme que nous ne connaissions pas à 20 ans. On était beaucoup plus du côté d'un idéalisme plus léger et d'une utopie qui leur a été presque barrée par les difficultés, la crise, en ce moment la récession quand même qui est très très forte et qui va atteindre, j'imagine, encore plus toutes nos vies. Donc bien évidemment, là on est dans un domaine où les choses changent pour le meilleur. C'est une utopie.
Alors dans Welcome to the Voice, il y a une partie, un moment, quand les ouvriers essaient de rappeler Dionysos à sa condition d'ouvrier et qu'au nom des grands...
Les théoriciens de la Révolution.
De la Révolution, il répond Mozart, il l'appelle les dieux de la musique, on va dire. Mais en même temps, ce sont des figures que vous n'avez probablement pas choisies non plus au hasard, Saint-Just, Gramsci, etc.
Bien sûr.
On sent quand même au-delà de... C'est pas du catalogue, il y a quand même du sens dans ce que vous avez
Absolument.
Dit dans tout ça.
D'abord, ce sont la plupart du temps des auteurs pour moi, des théoriciens vraiment, dont j'ai lu les écrits quand j'étais évidemment plus jeune et qui m'ont absolument bouleversée. L'intelligence par exemple de Marx sur les écrits sur la religion ou sur les écrits sur l'art aussi qu'on connaît peu, c'est absolument incroyable. Les textes de Saint-Just qui étaient d'une beauté absolument incroyable, quoi, totalement fou et sanguinaire. On voit quand même que ce sont des gens, c'est pour ça que d'une certaine façon on leur oppose un autre type de révolutionnaires que sont Verdi, Honegger, des gens aussi qui ont travaillé à la révolution d'une certaine manière musicale, c'est-à-dire à la question même de comment la modernité naît, comment la modernité, qui est une espèce d'état de crise, nous arrive grâce à ces gens-là, quoi. Bon. Donc, c'est des noms qui sonnent pour moi comme des gens qui sont chers, effectivement, dont j'ai adoré les écrits. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, surtout, évidemment, puisque c'est quand même par cet accès-là que j'y suis arrivée. Oui.
Vous êtes ouverte, on va dire, à la culture. Et puis, par votre rencontre avec votre compagnon, avec Steve Neave, là, vous avez donc mêlé vos connaissances musicales à tous les deux et l'histoire de Dionysos avec sa rencontre avec sa diva. Vous l'appelez chanteuse, elle est chanteuse d'opéra, elle n'est pas forcément diva, elle n'a pas forcément ce caractère. Il y a une écriture très ramenée à l'essentiel. Dans ce livret, hein, dans les noms des personnages, d'abord c'est un opéra en un acte, c'est vraiment, on est sur le cœur des choses, il y a les ramifications, et puis il n'y a pas de fioriture, en même temps il y a beaucoup de densité.
On était vraiment dans le désir de quelque chose qui soit simple. Déjà la forme paraît prétentieuse pour nous autres qui ne sommes pas de ce monde, donc déjà on était... modeste par rapport à ça, c'est sûr, il fallait
par
une humilité.
Par rapport au monde de l'opéra,
par rapport au monde de l'opéra. En plus, on était intéressés, moi j'étais vraiment intéressée.
Alors, quel est votre monde ?
Par les archétypes. Mon monde ?
Ou celui de Steve Neave pour...
Vraiment, Steve, on venait de deux univers très différents. Steve, c'est vraiment la musique d'abord classique et puis ensuite la musique rock, puisqu'il il était au Royal College of London et puis ensuite avec Elvis Costello. Et moi, je viens d'une famille extrêmement modeste dont tout l'enjeu était de subvertir quelque chose de ça par le travail intellectuel. Donc mon père est devenu, après avoir été vraiment un ouvrier comme un métallurgiste, quoi, mais enfin il est devenu pendant un temps l'administrateur d'un opéra et maintenant il est critique d'art. Ma mère, qui n'est plus avec nous hélas, a fait le même chemin. Elle était d'une famille très 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 modeste d'immigrés italiens et ensuite elle s'est occupée des collectivités d'un théâtre, de choses de cet ordre-là. Et moi, j'ai passé une agrégue de philo dont j'ai d'ailleurs loupé l'oral, mais peu importe. Il se trouve que j'ai effectivement travaillé vraiment à essayer de changer quelque chose par la passion pour le savoir.
Alors là, c'est la passion pour la musique qui vous a reliés tous les deux.
Oui.
Vous avez, dans l'opéra, vous avez écrit, puisque ça fait des années que vous travaillez dessus, quand même, 10 ans, c'est pas rien. La fin s'appelle Duo improbable.
Oui.
Bon, mais vous, là, votre histoire, c'est pas un duo improbable, c'est une concrétisation, il y a quelque chose de...
Quand même, on est vraiment réellement, fondamentalement différent, c'est vrai.
Oui.
D'abord parce qu'il est anglais, que je suis française, et que c'est des cultures très différentes.
Alors ça se retrouve dans Welcome to the Voice, puisque...
Il y a les deux langues,
Il y a les deux langues. Oui. Vous avez d'abord écrit en français ?
Non,
ou
j'ai écrit directement en anglais et je l'ai traduit. Ça a été d'ailleurs une épreuve très étrange pour moi de le traduire de l'anglais, qui n'est pas ma langue, vers ma langue. Et où de temps en temps, je me disais, mais est-ce que tout ça a finalement du sens quand ça ne sonne plus dans l'anglais, qui a un exotisme quoi, et qui est vachement agréable quand même. Donc voilà, puis après, je me suis habituée. Je trouve le texte en français maintenant lisible, quoi. Il est sous-titré d'ailleurs.
Pour l'opéra.
Voilà, pour l'opéra. Alors.
Alors, on a la chance d'entendre dans l'opéra donc des morceaux chantés en anglais il y aura des passages en français.
Oui, bien sûr. Carmen, Sting, ils chantent en français souvent. Enfin bon.
Alors, c'est très surprenant ces passages, ces petits en
vol, l'humeur,
peu à l'humeur. Ouais. Vous avez écrit en anglais sur la langue. J'ai lu que vous aviez eu peut-être le projet à un moment d'écrire dans d'autres langues.
Oui, absolument. Après, c'est pas de la paresse. C'est vraiment parce que je me suis rendu compte que c'était inconséquent, parce que je connais un peu l'allemand et un tout petit peu l'italien. Mais je voulais écrire dans les langues de l'Europe, qui à l'époque était quelque chose qui était encore comme une utopie. Et donc, c'était important pour nous. Et puis d'abord, l'Europe s'est faite, donc il n'y a plus besoin de l'aider, ou peut-être encore un peu, mais enfin bon, voilà, c'est déjà fait. Et je me suis rendu compte aussi que je n'arrivais pas à écrire en allemand d'une manière authentique, et je n'arrivais pas non plus à écrire en espagnol d'une manière suffisamment authentique pour que... j'ai besoin de ça, moi, beaucoup. Si je ne crois pas, moi, en la chose, je la perds complètement. Alors, il fallait que ça soit authentique. Et les deux langues authentiquement proches de moi et dans lesquelles j'arrive à dire une émotion, c'est le français
c'est
et l'anglais.
Mmh. Alors, c'est un hommage à la voix.
Ouais.
Pour vous, la voix, qu'est-ce que c'est ?
C'est vraiment l'élément le plus archaïque, le plus fondamentalement différenciateur entre l'animal et l'humain. C'est donc pour moi vraiment ce qui fait l'humain. C'est notre obligation que de nous parler. Je trouve que c'est une des plus belles choses qui nous arrivent, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à s'entendre. Que la compréhension entre les humains est une chose qui ne cesse pas de me bouleverser complètement. Et que c'est le canal de la voix qui nous apporte cette possibilité de nous comprendre.
Dans l'opéra, les personnages disent que c'est la voix qui les lie. Oui. Quels sont les mots exacts ?
C'est qu'au-delà même du cri, des larmes, de toutes les autres expressions de l'émotion, c'est la voix qui est le salut humain, qui est la rédemption même. Que c'est, the voices bond us, c'est vraiment les voix nous lient. Et de fait, cette espèce de matérialité comme ça, de sonorité, c'est ce qui rejoint la musique aussi chez l'humain. Et donc, on a un
langage.
Instrument magnifique avec nos voix et avec notre langage. Qui est tellement complexe, tellement beau, tellement contraignant aussi. Donc voilà, je suis impressionnée beaucoup par une parole de Jacques Lacan, pardon, c'est une citation peut-être un petit peu ambitieuse, mais qui dit qu'on est du par-l'être. Par-l'être, ça veut dire que notre être se dit par le fait qu'on est capable de parler, et j'adore ça.
Alors, vous avez convoqué les voix qui chantent avec ces grands fantômes de l'opéra, Carmen, Norma,
Butterfly.
Alors, pourquoi ces trois-là ?
Déjà parce que comme je ne suis pas d'une culture tellement raffinée pour le monde de l'opéra, pour moi, c'est ce qui me saute immédiatement aux yeux. C'est-à-dire que ce sont les trois archétypes, pour moi, les plus précis de l'opéra, de ce qui est le plus connu, le plus partagé et qui devient au bout du compte de la culture populaire. Je crois que tout le monde, quand bien même on n'aime pas l'opéra, on sait Carmen sur les remparts de Séville, on sait les grands airs, on reconnaît immédiatement Butterfly, Norma peut-être un tout petit peu moins, mais quand même aussi. Voilà, ce sont des grandes figures. Et j'avais envie qu'elles soient avec nous comme ça, comme des références, un peu comme des parts, comme des sœurs étranges et des gens qui sous la protection desquels on s'est placé pour l'ensemble.
Alors, pour l'ensemble. Donc, elles ont un rôle dans l'opéra là, par rapport
beaucoup,
à Dionysos.
Oui. Elles décident, elles sont comme les parques. Alors, d'abord, à un moment, elles jouent avec sa vie. On va se demander si elles le tuent finalement ou si elles le gardent. Si elles ont envie de faire quelque chose qui serait commercial et auquel cas on épargnerait la vie. Ou alors quelque chose dont elles disent que c'est plus radical et qu'on les tuerait. Et moi, je ne tranche pas là-dedans puisque je pense que c'est plus radical d'épargner la vie. C'est ma propension. Je trouve qu'il y a beaucoup de vie gâchée. Et donc, je pense que ça me plaît beaucoup de ne pas me faire mourir, ni au cinéma, ni dans l'écriture, ni à l'opéra.
Donc là, c'est vraiment, effectivement, c'est un opéra sans mort.
Absolument, sans mort et avec une fin improbable. Une fin, en tout cas, qu'on appelle positive maybe, c'est-à-dire, on ne sait pas, mais il y a quand même quelque chose qui penche du côté de l'utopie et de la réalisation de l'utopie.
Ah, c'est une histoire d'amour.
Oui, mais à 100%. C'est vraiment une histoire d'amour. On y voit par exemple à un moment un ballet du désir que j'ai vu ce matin grâce à Daniel Larieux et grâce à Sting et à Sylvia Schwartz qui ont travaillé là-dessus avec acharnement. Et j'étais en larmes parce que c'est l'amour absolu, c'est l'archétype de l'amour, de l'homme, de la femme, de la rencontre. C'est très émouvant, oui. Oui. C'est vraiment une histoire d'amour.
Une histoire d'amour. Il y a qu'à
les vivre. Je suis désolée, hein, c'est banal. Mais je pense effectivement enfin, qu'on économise les vies, on essaye de donner le plus possible d'une émotion authentique. Et donc, on va voir quoi.
La soprano Sylvia Schwartz, qui a fait ses débuts il n'y a pas très longtemps, en 2006, interprète le rôle de la cantatrice Lily, dont le héros, Dionysos, est amoureux.
Donc Sylvia Schwartz, c'est une trouvaille, je dirais un peu vulgairement. Jean-Luc Choplin avait confiance immédiatement dans sa voix. Il a organisé le casting des voix lyriques, évidemment. On ne la connaissait pas, mais on a été bouleversé par la justesse de ce choix et par la beauté de cette femme et par son enthousiasme, sa jeunesse. Elle est engagée dans ce travail d'une manière incroyable. Ensuite, elle va chanter Monteverdi et d'autres auteurs bien plus confirmés, mais elle fait ça avec un engagement qui nous émerveille complètement. Marie-Ange Todorovitch, qui est une grande classique de Carmen.
Oui.
Sonia Yonkeva, qui est une jeune femme, très belle, très érotique, qui va donner une folle absolue dans Butterfly, comme ça. Et puis, une magnifique femme, blonde, une espèce de rêve, comme ça, qui a une peau magnifique et tout ça. Donc, on la regarde et on est émerveillé. Et en plus, quand elle chante, on est émerveillé. Et c'est Anna Gabler, elle va être Norma. Et ces trois gosses, de temps en temps, font une espèce d'image comme ça, quand on les voit chanter ensemble, c'est absolument sidérant. Et elles sont celles qui gèrent l'ensemble de l'histoire comme ça, en manipulant nous autres, pauvres petits humains.
Pauvres petits humains, elles jouent avec nos destins.
Ouais, absolument.
Quelles sont les réactions justement des voix du rock des voix rock avec ces voix de lyrique?
Déjà, c'est surprenant parce que...
Il doit y avoir une belle écoute entre eux, j'imagine.
Ils s'aiment beaucoup, ils sont surpris par les techniques totalement différentes de chacun. Ils sont extrêmement intéressés par ce que propose l'autre et la manière qu'a l'autre de travailler. Et les voix sont magiques ensemble. Ça se marie d'une manière qui nous sidère nous-mêmes, quoi.
Bon, alors donc c'est le mariage et l'alliance de ces rencontres improbables.
Voilà, c'est l'alliance de l'hybride, de ce qu'on dit effectivement. Unwell sort, d'a priori c'est mal assorti et c'est pour ça que c'est tellement beau comme pari d'essayer de les assortir et de faire en sorte qu'il y ait une espèce d'harmonie inattendue, c'est pour ça qu'on l'a appelé improbable, qui viennent de tout ça. On verra. On vient me rechercher pour partir en répétition.
Merci Marielle Théodorie.
Merci beaucoup.
C'était une émission de Canal Académie, la radio sur Internet des 5 académies de l'Institut de France.